grosses têtes.
Les grosses têtes au carré.
Oh, oh, oh.
Au carré.
Carré.
Décortiquer. Analyser. Commenter l'actualité scientifique. C'est jusqu'à 15h sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre avec, comme tous les vendredis, nos grosses têtes au carré pour une heure autour de l'actualité scientifique. Cette semaine, je suis avec Vincent Olivier, Yves Eudes, Jean-Pierre Villotte et Claude Danglot. Bonjour à tous les quatre. On va démarrer avec un premier tour de table pour découvrir les sujets dont vous allez nous parler. On commencera avec vous, Jean-Pierre Villotte. Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe et vous allez nous parler du verdict qui concerne vos collègues italiens.
Absolument.
Avec 6 ans de prison ferme.
6 ans de prison ferme pour 7 personnes de la commission.
Voilà, avec une décision qui a surpris la communauté scientifique dans le monde entier. On va parler un petit peu aussi de la complexité de ce dossier avec vous. Et on apprenait d'ailleurs ce matin qu'un tremblement de terre avait eu lieu également cette nuit dans le sud de l'Italie. On fera le point avec vous. Claude Danglot, vous êtes médecin, biologiste, ingénieur, hydrologue et syndicaliste à la CGT. Quel est le sujet dont vous allez nous parler tout à l'heure ?
Parler du problème des chloramines dans les piscines et des conséquences sur la santé des gens qui les fréquentent.
Oui, vous parlez de chloramine et pas de chlore hein ?
De chloramine, oui, pas de chlore, non.
Oui, c'est à peu près la même chose ?
Pas du tout,
ah
c'est
bon ?
Très différent.
Ah bon, bah écoute.
C'est très différent et c'est justement, quand on va dans une piscine et que ça sent le chlore, entre guillemets,
oui.
C'est pas le chlore que vous sentez, c'est les chloramines qui, elles, sont toxiques pour les voies respiratoires, le chlore ne l'étant pas.
Bien, eh bien, on va en discuter avec vous. Vincent Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Express. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'actualité scientifique de ces derniers jours, Vincent ?
C'est une affaire de prélèvement d'ADN sur des militants de Greenpeace qui ont refusé ce prélèvement et qui, pour cela, ont été condamnés à 800 euros d'amende. On va donc parler du prélèvement et des possibilités ou pas légales de demander à quelqu'un d'obtenir son ADN.
Voilà, pour, entre autres, constituer des portraits robots.
Exactement.
Des individus. Et puis enfin, Yves Eudes, vous êtes grand reporter au Journal Le Monde, notre partenaire pour le cahier Science et Techno, qui sort cet après-midi dans les kiosques. Et vous signez dans le cahier un article consacré à Twitter. Qu'est-ce que vous allez nous raconter à ce sujet ?
En fait, je suis allé à Chicago pour voir pour voir des experts en intelligence artificielle qui utilisent tout le flot d'informations qu'on trouve sur Twitter pour apprendre à leur machine à traiter, analyser et à comprendre l'information de façon automatique.
Qui sont les tweetos, hein, c'est un petit peu ça aussi.
Les machines vont remplacer les journalistes, entre autres.
Ah, ça peut-être. Le dossier a été préparé par Anne-Cécile Perrin, c'est Violaine Ballet qui réalise l'émission et bien sûr, vous nous rejoignez pour discuter donc de tous ces sujets avec vos messages sur franceinter.fr.
Vous écoutez La Tête au Carré jusqu'à 15h sur France Inter.
Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So, my friends, to stop the end, on each other we depend. All we depend. Man and how you live a deal. Stop it going on. We got a weakness, wind up, frown and sleep. All people. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot, the rest of us. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my bad, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Stop.
Et c'est Jamiroquai sur France Inter.
Les grosses têtes au carré.
Carré.
La science se construit par le débat, par la contradiction, par la polémique.
Le magazine scientifique de France Inter.
Carré. La société n'est pas trop en grèce de controverses scientifiques.
Les grosses têtes au carré. Carré.
Voilà, alors ça se discute. Hein.
Mathieu Vidard.
La controverse.
Sur France Inter.
Les grosses têtes au carré, avec cette semaine le médecin Claude Danglot, le sismologue Jean-Pierre Villotte, Vincent Livier de l'Express, Yves Eudes pour le cahier Sciences et Techno du Monde, et vous nous rejoignez avec vos messages sur le site de l'émission sur franceinter.fr. On commence donc avec vous, Jean-Pierre Villotte, vous êtes sismologue à l'Institut de Physique du Globe. Alors on va parler dans un instant de cette condamnation des scientifiques italiens au sujet du séisme de L'Aquila. Avant ça, quand même un point sur le séisme qui a eu lieu cette nuit dans le sud de l'Italie, tremblement de terre d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Il a été fortement ressenti. 5, c'est une moyenne...
C'est une sismicité modérée. Enfin, c'est une puissance de séisme modérée pour la région. La partie la plus dangereuse ou la plus à l'aléa sismique le plus élevé est un peu plus au nord dans la région de Potentia où il y a eu déjà des séismes de magnitude supérieure à 6. C'est une région qui était depuis plus de 2 ans touchée par une crise sismique assez intense, avec des périodes importantes et puis des phases de quiescence.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une crise sismique dans votre langage de sismologue ?
C'est-à-dire un grand nombre de petits tremblements de terre de magnitude la plupart inférieure à 2, donc très faibles, mais qui sont superficiels. Donc qui sont
on ressentis. Les ressent ceux-là ou pas ?
Quand ils sont superficiels, oui, on les ressent. Ils n'ont pas beaucoup d'impact sur les bâtiments. Mais par contre, la population la ressent. Et sur plusieurs années d'activité de ce type-là, on comprend que la population, bien sûr, s'inquiète. Donc il y a eu un magnitude 5 aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un magnitude qui intervient après plus de 2 ans d'activité sismique soutenue, ce qui ne fait que soulever le problème de prévoir des tremblements de terre en période de crise et en période d'essaim.
C'est exactement le cœur du dossier d'ailleurs sur l'Aquila, hein,
sur la difficulté. Sur le plan scientifique, c'est le cœur du dossier.
Donc il y a eu beaucoup de répliques enregistrées ce matin hein, sur le sud de l'Italie, ce qui est tout à fait normal.
Ça, c'est parfaitement normal.
Évidemment. Ce sont des... Alors l'Italie est une terre qui tremble beaucoup quand même. Hein. Comment on l'explique ?
Il y a une déformation extrêmement active en Italie qui est liée au fait qu'on est à la limite entre la plaque Afrique et la plaque Europe. Et donc, en particulier au centre de l'Italie, dans la chaîne des Apennins, on a des zones extrêmement actives sismiquement. Et les Italiens, depuis de très nombreuses années, ont appris à vivre dans ce milieu sismique.
Ouais. Donc, c'est la rencontre de ces deux plaques qui fait qu'on est dans une zone très turbulente.
Absolument, et plus au nord avec la construction des Alpes.
Ouais. Et donc, les tremblements de terre sont très réguliers. Est-ce qu'il y a une rythmicité ?
S'ils étaient très réguliers, ça nous simplifierait beaucoup la vie. Mais non, ils ne sont pas très réguliers quand on les prend individuellement. Par contre, identifier les zones à fort aléa sismique au niveau du globe, c'est quelque chose sur lequel, sur les 20 dernières années, les sismologues ont fait de très gros progrès. Et on a actuellement une carte qui identifie ces zones au niveau mondial, au niveau régional, et avec une caractérisation probabiliste. C'est-à-dire ces zones sont caractérisées par une probabilité d'avoir un événement sismique d'une magnitude supérieure à, par exemple pour l'Italie, ça peut être des magnitudes supérieures à 5,5 sur une période de 30 ans.
Ouais. Est-ce que la France, le sud de la France, est concerné justement par cette sismicité italienne directement ?
Directement avec les Alpes, oui, bien sûr.
Donc ça tremble aussi
ça
de temps en temps.
Ça tremble plus modérément, mais il y a effectivement un risque sismique dans le sud-est de la France.
Alors lundi, donc, on apprenait la condamnation à 6 ans de prison pour 7 scientifiques italiens accusés d'avoir sous-estimé le risque de séisme juste avant le drame d'Aquila en 2009. Comment est-ce que d'abord vous avez réagi dans votre communauté lorsque vous avez appris cette condamnation, Jean-Pierre Villotte ?
Avec une vive inquiétude et une certaine émotion, d'une part parce que ce sont des collègues. La deuxième chose aussi, c'est que ce sont des condamnations individuelles pour une charge très lourde d'homicide involontaire avec des peines de prison ferme de 6 ans. Donc 7 membres de la commission ont été condamnés individuellement, ce qui est un cas sans précédent et qui pose bien sûr de nombreuses questions sur... comment exercer une expertise scientifique et comment attirer pour cette expertise scientifique des experts les plus compétents et faire en sorte que cette expertise scientifique soit la plus indépendante possible. Ouais. Et un point très très important, c'est au niveau de cette affaire de l'Aquila, c'est de comprendre que ça a été vraiment un événement en période de crise, c'est-à-dire que cette région qui est sismiquement très active et qui est identifiée sur la carte des aléas sismiques en Italie comme l'une des régions les plus avec un aléa sismique le plus fort, avec une probabilité d'un séisme de magnitude 5 supérieure à 20 à 30%. C'est une région donc parfaitement identifiée. Et depuis le début de l'année 2009, la population vivait au milieu d'une activité sismique importante, de petits séismes, et donc avec une inquiétude vive. Et la commission s'est réunie juste après un séisme de magnitude 4.1 qui a affolé la population.
Vincent Olivier ?
Oui, j'avais une question à vous poser, parce qu'à la même période, un expert, mais qui ne faisait pas partie de cette commission, qui s'appelle, je crois, Gian Paolo Giuliani, avait diffusé des messages d'alerte sur Internet, et pour cela, il était parti avec une méthode particulière qui consiste à étudier la concentration du gaz radon libéré sur la croûte terrestre. Est-ce que ça veut dire que les experts de la commission se sont trompés, puisque certains d'autres ont dit, attention, il faut vraiment bouger, il y a un risque très très élevé ?
Alors, je pense que ça, c'est vraiment un point très au cœur du débat. Ces propos-là sont des propos, je qualifierais, d'irresponsables, avec des méthodes qui ne sont absolument pas fondées scientifiquement, non validées. Quelqu'un qui s'exprime à titre individuel, sans aucune évaluation par les pairs, et qui n'est même pas sismologue. Et je pense que les déclarations intempestives de cette personne ont provoqué une très vive inquiétude dans la population et en grande partie la pression qui a eu lieu, qui s'est exercée autour du 30 mars, vient du fait que la protection civile cherchait à atténuer les propos de cette personne. Et ça soulève quelque chose qui est au cœur de la politique de prévention et de gestion de crise, par exemple dans des régions aussi sismiques que la Californie, où les commissions d'expertise, les membres qui sont nommés dans cette commission d'expertise ont une protection juridique et que toute communication doit se faire au niveau de la commission. Elle s'est évaluée et l'information se fait à travers la commission. Toute personne qui s'exprime à titre individuel n'est plus considérée ni comme un expert, ni comme quelqu'un qui fonctionne dans un processus scientifique normal et donc s'expose à des suites de responsabilités.
Alors, qu'est-ce qu'il aurait reproché exactement, Jean-Pierre Villotte, à ces scientifiques par rapport à leur travail, à ce qu'ils ont fait au moment donc, du séisme ?
Alors, c'est très dur. Je pense que lire toutes les attendues du jugement, ça dépasse mes compétences juridiques.
Oui, oui.
Je pense tout d'abord que pour clair, que la commission aurait éventuellement atténué sous pression ou volontairement, les conséquences ou les prévisions. D'autre côté, cette commission s'est réunie à L'Aquila très rapidement après le séisme de magnitude 4 à Rome, donc dans un climat peut-être
de
plus
pression
serein.
Là aussi. Hein, ouais.
Et d'autre part, le problème qui était posé, c'est comment évaluer la prévision d'un événement sismique, c'est simplement d'indiquer qu'il y a une augmentation de la probabilité. Par contre, la probabilité pour la prévention d'un possible tremblement de terre.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, on les accuse de ne pas avoir donné le bon message, ce qui aurait pu sauver des vies, parce qu'au fond, il y avait des personnes qui étaient prêtes à partir de leur habitation, qui ne l'ont pas fait en fonction.
La situation est complexe. C'est-à-dire, je pense aussi qu'il y a eu un problème de langage très important. C'est-à-dire que, en période de crise, face à une magnitude supérieure à 5 dans cette région-là, ce n'est pas forcément ce que les gens veulent entendre. C'est pour ça que c'est extrêmement important de traduire cette information scientifique. Ça fait intervenir d'autres facteurs. Je prends un exemple. la population, parce qu'elle a une habitude de vivre dans des conditions sismiques, a cette attitude tout à fait raisonnable en période de crise de vouloir sortir de chez elle pour se mettre en espion. L'apprend et qu'il faut la faire perdurer. Ça nécessite d'avoir des mesures logistiques, c'est-à-dire d'organiser ces choses-là.
Responsable décisionnel, de façon à faire la traduction de l'expression des scientifiques en un langage que sont capables de comprendre les politiques.
Ça ne s'est pas fait déjà ?
Alors ça, je pense que ça doit exister quand même, non ? C'est fait, parce que là, on est en période de crise. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un énorme travail en amont. Donc, quand une fois qu'on a identifié des zones à très fort aléa sismique, il y a tout un travail dans ces zones à fort aléa sismique à leur donner l'information et à les préparer pour les mesures en période de crise, de période d'évacuation, etc. Par contre, une crise à chaud nécessite, je pense, d'avoir des canaux d'information vis-à-vis de la population qui soient clairement en termes des faits, avec un canal scientifique.
Mais ça, ça existe ou pas, alors, où il y a vraiment une...
Très clairement, dans le cas de l'Aquila, c'est quelque chose qui s'est un peu mélangé.
Vincent Olivier ?
Oui, moi je comprends très bien l'émotion de la communauté des sismologues, parce qu'effectivement, être condamné à des années de prison pour un irresponsable, ça paraît un petit peu délirant. Mais là où je pense que les choses sont un tout petit peu plus compliquées, c'est qu'il me semble qu'ils ont été condamnés, non pas en tant que sismologues, mais en tant que membres d'une commission administrative. Et donc, il me semble que ce qu'ils leur auraient reproché, après on peut discuter de la validité ou pas, ce n'est pas d'avoir donné de recommandations. Et ce qu'on attend d'une commission, justement, c'est qu'elle donne des recommandations. C'est-à-dire que l'expert peut douter. Le scientifique, pardon, peut douter, l'expert, lui, doit dire quelque chose, des avis éclairés, donc des recommandations au pouvoir public.
Jean-Pierre Villotte.
Oui, bien sûr, je pense que c'est le rôle de cette commission. Par contre, ça veut dire que dans cette commission-là, donc les experts y étaient à titre de personnalité scientifique, dans cette commission-là. Je reviens sur cet exemple en Californie. Être dans une commission en Californie leur assure une protection juridique. Je pense que c'est très important de manière à ce qu'ils ne subissent pas de pression et qu'ils puissent vraiment... La pression qu'ils peuvent faire, c'est simplement de donner l'information jugée aujourd'hui la plus pertinente et la plus fondée d'un point de vue scientifique. Mais la traduction de cette information en mesures concrètes n'est pas de leur ressort, parce que, encore une fois, ça dépend intrinsèquement du modèle de précaution. Et en plus, d'autres facteurs, et ce modèle de précaution dépend de facteurs sociétaux, économiques, protection civile, sur les mesures séparées.
Pour terminer sur ce dossier, Jean-Pierre Villotte, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour la communauté scientifique ? Alors, dans le monde, feu, on se dit, mais plus personne ne va prendre de décision. Ça doit être infernal de travailler dans ces conditions de condamnation potentielle, en tout cas.
C'est tout l'inquiétude et le débat dans la communauté scientifique. Encore une fois, ce n'est pas la commission en tant que personne morale qui a été condamnée, ce sont des individus. Et la deuxième chose, ça soulève deux points qui, pour nous, sont un manque évident. Au-delà du fait que je pense que le dialogue est difficile et souvent les questions qui sont posées ou les réponses que l'on attend ne sont pas formulées dans quelque chose.
Leur condamnation sert à protéger qui, demande Larry ? Les experts n'ont-ils pas des responsabilités individuelles ?
Je pense que c'est dangereux de dire que les experts ont des responsabilités individuelles dans la mesure où ils sont seuls. Les débats contradictoires, un fait scientifique et en particulier sur l'analyse d'un essaim sismique, d'un point de vue scientifique, quand il y a un débat. L'essentiel de la commission, c'est d'arriver à une conclusion qui est scientifiquement solide. Par contre, cacher des responsabilités ou regarder les choses, je voudrais surtout insister sur le fait que c'est en amont que ces choses-là se préparent à crise. Et le fait de correctement, à partir de ces cartes d'aléas sismiques, déterminer les risques et ensuite d'avoir les mesures de prévention en termes de normes de construire, de faire respecter ces mesures et ensuite d'éduquer la population... C'est le plus important.
En tout cas, c'est à suivre sur les prochaines décisions, puisque j'imagine que tous les scientifiques ont fait appel. On va voir ce qui se passe
bien
ensuite.
Bien sûr, merci.
Beaucoup de réactions dans le monde entier. L'une des dernières France, en tout cas, le professeur Alain Carpentier, qui est président de l'Académie des sciences, a envoyé hier à son homologue italien une lettre au sujet donc, de cette affaire. Et chaque jour. Claude Danglot, vous êtes médecin biologiste, ingénieur hydrologue et syndicaliste CGT. C'est important de le préciser, m'avez-vous dit tout à l'heure. Alors vous allez nous parler, pas du chlore dans les piscines en fait, c'est pas ça le problème. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Pas du tout, non, il n'y a pas de problème de chlore.
Tout va bien avec le chlore. Alors quelle est cette odeur que l'on sent quand on va se baigner? C'est quoi alors?
Ce qu'on sent, c'est l'odeur des chloramines.
Ah, très bien.
Mais c'est pas l'odeur du chlore, le chlore n'a pratiquement pas d'odeur. Mm-hmm. Et donc le problème des piscines, c'est qu'on a cherché pendant des années des techniques pour désinfecter, que les gens attrapent des maladies en allant se baigner.
Alors pardonnez-moi, dans quel contexte vous avez été amené à vous intéresser, vous, aux piscines?
Je me suis occupé d'une maladie de l'environnement, de biologie de l'environnement au CRESEP, qui était le centre de recherche et de contrôle des eaux de Paris pendant 35 ans, où il y a eu une douzaine de thèses. C'était un labo de recherche assez important. Et puis comme ce CRESEP a fait faillite, c'est le seul laboratoire public en France qui a fait faillite, les personnels et les gens qui travaillent dans les piscines aussi.
Les chloramines posent un certain nombre de problèmes.
Donc les chloramines posent un certain nombre de problèmes. Donc je disais que le chlore, c'est la seule technique efficace par jour, mais dans les piscines publiques, c'est plusieurs centaines de personnes tous les jours.
On a une auditrice d'ailleurs qui nous dit que la piscine de sa commune est traitée à l'ozone. C'est une des alternatives
possibles.
C'est
une des alternatives pour une petite piscine, mais il y a des tas d'inconvénients à l'ozone. Et ça maintient une capacité désinfectante jusqu'à l'arrivée chez le consommateur. Donc là, c'est la même chose pour les piscines. On met du chlorectant, perdure dans le temps.
Il y a eu des études scientifiques de mener justement sur les effets des chloramines sur les individus. Quand même, ça nous intéresse quand on va se baigner à la piscine.
Il y a tout un tas d'études qui ont été faites. En particulier, il y a l'INRS qui a publié, l'AFSET qui ont publié. L'AFSET, c'était un service public sur la santé qui a été remplacé maintenant par l'ANSES. Ils avaient publié des études en toile et donc à long terme, on peut avoir des troubles sérieux respiratoires. Par exemple, la médecine du travail de la mairie de Paris a découvert qu'il y avait 25% des travailleurs des piscines.
Donc les maîtres nageurs,
par exemple, et les personnels qui s'occupent de l'entretien technique des piscines. Il y a 25% des gens qui ont des problèmes respiratoires.
Ah oui, un quart, c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que le risque n'est pas très très bien maîtrisé. Et bon, ça serait possible de le faire. Ne dites pas ça, vous allez.
Alors.
Non, c'est les chloramines, elles se forment parce que le chlore il réagit avec la matière organique de l'eau. Alors la matière organique, c'est les gens qui font pipi dans les piscines. Ouais. Ça c'est pas bien, faut pas le faire. C'est grave quand c'est pratique. Les gens qui ne se lavent pas avant de venir dans la piscine, donc ils perdent toute leur peau morte qui a de la matière organique.
Ouais. Et gens c'est très l'amour tout ça.
C'est bien pour le week-end.
Les cheveux longs qui sont perdus dans la piscine. Ouais. Donc tout ça, c'est...
Alors pour les doses de chlore, pour ceux qui...
Plus il y a de matière organique, plus il faut moins organique. Et comme malheureusement, il y a un chimiste qui s'appelle Vantoff qui a dit un jour que pour arriver à ce que la réaction chimique soit complète, c'est-à-dire qu'on tue en même temps, le traitement sans arrêt en fonction des...
Et visiblement, c'est pas fait.
C'est pas très bien fait. Ça pourrait être fait beaucoup mieux. Et puis en plus, cette chloramine, c'est un gaz. Ça dégraze de la piscine et ça se trouve dans l'atmosphère au-dessus de la piscine. Par des ventilations très efficaces ou des techniques même plus compliquées.
Ce qui n'est pas le cas non plus.
Ce qui n'est pas le cas non plus.
Bien. Vincent,
oui, je veux dire, d'abord, malheureusement, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas faire pipi dans la piscine, mais paru, c'est qu'il y avait un risque 4 fois plus important de faire des bronchiolites chez ces jeunes enfants. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire comme en Allemagne, où par exemple, les bébés nageurs ont été supprimés, enfin, cette possibilité a été supprimée en 2010. Est-ce que vous trouvez-vous que c'est trop dangereux pour des enfants?
Moi, je pense que le risque est suffisamment élevé pour qu'au moins on ne fasse pas nager les bébés dans une piscine traitée de cette façon-là.
Une
piscine spéciale pour les bébés, c'est tout à fait envisageable, de façon à ne pas les mettre dans le même jus que tout le monde, parce que les risques pour un nouveau-né ou un enfant, et en plus il a des fonctions respiratoires plus importantes, il respire 3 fois plus de chloramine pendant le même temps qu'un adulte.
Donc, sur les bébés nageurs, vous dites que c'est une folie furieuse quand même.
Oui, enfin bon...
C'est des propos que vous avez tenus.
Oui, c'est les propos que j'ai tenus. Mis dans la piscine quand ils étaient bébés, parce que je pense que c'est plus pour faire plaisir aux parents que pour la santé des bébés.
Lydia demande quand l'eau du robinet sent le chlore.
Ça veut dire qu'elle a été mal désinfectée et qu'il n'y a pas assez de chlore dans l'eau.
D'accord. Voilà. Donc ça ne donne pas envie de boire de l'eau qui a vraiment une odeur marquée.
Voilà, que moins ils mettent de chlore, plus ils font des économies sur le traitement. Donc,
Claude Danglot, pour terminer, quel est le message à faire passer? Il y a quand même...
C'est pas normal. Vous parliez de pipi dans la piscine, mais il y a des piscines à l'étranger où l'eau devient rouge quand on fait pipi.
C'est vrai.
C'est très bien.
Ça localise...
Bien sûr. I'm
C'est Techno du Monde qui sort cet après-midi. Je suis sûr qu'on va tweeter sur les traces rouges laissées par ceux qui font pipi dans les piscines cet après-midi, mais c'est pas ça dont vous allez nous parler.
Mais il y en a un point, c'est que voilà, leur objectif, c'était, ils voulaient trouver un énorme flux permanent d'informations qui soit très diversifié, qui soit brut, chaotique, et donc Twitter, c'est le et traiter cette information, à la découper en rondelles, à la transformer en graphique, en tableau, etc. Et ensuite à ranger tout ça dans des... À partir de cette espèce d'ambition très, très grande, et d'ailleurs, comme je dis, ils sont en train d'y arriver après des années de travail, ils font aussi au rayon X. Et là, c'est tout simple.
Ça sert à quoi ?
Alors, ils prennent les 500 derniers tweets de n'importe qui, les vôtres, par exemple. Ils font un Twitter un peu comprendre, entre guillemets, c'est-à-dire grâce à un jeu assez complexe de mots-clés, à les traiter, à les analyser et à les classer en 12 catégories.
Du baby-boom. Évidemment, la guerre du Vietnam pointe son nez. L'arrivée de la télévision qui fait une concurrence monumentale, évidemment, au cinéma qui voit ses entrées s'effondrer. La révolte pour les droits civiques. On voit bien que dans les années 60, Jack Kerouac, la beat génération, bientôt la contre-culture. En gros, ce vieux système hollywoodien qui fait qu'on ne peut même plus montrer. Il y avait des contrôleurs de buste à l'époque, des gens qui venaient vérifier qui mesuraient de la naissance du sein au cou si la distance en centimètres était acceptable. On voit bien qu'au début des années 60, alors que JFK vient d'avoir son crâne qui a explosé sur Daily Plaza à Dallas, tout ça est évidemment ridicule. Et donc le code, peu à peu, va-t-elle subir tellement de coups de boutoir qu'à la fin ce n'est plus qu'un squelette, il n'y a quasiment plus rien.
Au nom du besoin de clarté d'une génération entière.
De transparence, et puis une dernière chose, c'est qu'Hollywood n'est plus du tout ce lieu, on n'a plus envie d'un Hollywood qui vous fasse rêver, on a envie d'un Hollywood qui dise le réel, ce qui change tout du point de vue des...
Vous parliez de là, là.
Le but n'est pas de faire un espèce de Twitter parallèle avec des énormes bases de données. Eux, comme je disais tout à l'heure, c'est uniquement une matière première. Après, ils le jettent. Ils s'en servent pour...
De Virginia Woolf. C'est une des raisons qui introduit la notion de classification par âge. La Ligue pour la décence devient un lobby parmi d'autres. Le code... Eh bien, il s'effrite sur lui-même et on imagine, en 66-68, un nouveau système.
Absolument. 68, c'est donc la fin du fameux code ACE qui est remplacé par ce qu'on appelle, par un système encore en vigueur aujourd'hui, qui est un système de classification. Cette fois, on dit, voilà, on classe les films en fonction de ce qu'on considère être leur degré de violence ou de nudité. Alors, le PG, parental guidance, voilà, c'est familial. Le PG-13, la famille peut y aller, ou des enfants de moins de 13 ans, mais accompagnés. Et voilà, on va décliner comme
et,
ça une
et,
série
et les de... moins de 17 ans.
À moins de 17 ans, c'est-à-dire qu'on peut venir avec un enfant de moins de 17 ans, mais il faut que l'enfant soit accompagné. Et le X qui apparaît en 68, qui n'est pas encore celui de l'industrie du porno, mais de la classification, l'a dit interdiction formelle aux mineurs. Et il y a notamment un film qui va être célèbre pour ça, c'est Macadam Cowboy de John Schlesinger, Dustin Hoffman, John Voight, qui va subir le sceau infamant du X.
On a choisi un autre exemple, Gorge Profonde 1972, on va dire que c'est du Quality X.
Mademoiselle Lovelay, je suis formelle, vous n'en avez pas.
Docteur, je suis une femme, il est normal que j'en ai pas.
Mais non, je ne faisais pas allusion au pénis, vous n'avez pas de clitoris, pas l'ombre d'un clitoris. Ouvrez la bouche mieux que ça, dites ah, 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 ah c'est ça, ah, ah, oh, ça y est, je le vois, votre charmante appendice, il est là.
Quoi?
Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge. Auriez-vous déjà essayé d'introduire un pénis tout au fond de votre gorge?
Non, à chaque fois ça me fait étouffer.
Ça doit être parce que vous manquez d'entraînement.
Alors admettons que ce soit du Quality X, mais enfin, comme pour ce genre de film, on a besoin d'un faible budget et que les perspectives de profit sont importantes, ça devient très vite radicalement du X.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est pourquoi Gorge Profonde est important. D'abord parce que c'est en 72, on est en pleine période de libéralisation. On pourrait presque dire que le pré-code, les promesses du pré-code se réalisent à ce moment-là dans les années 70, que tout est permis en termes de violence, en termes de sexe. Le porno arrive, distribué dans les salles. Et à l'époque, il faut quand même rappeler que le tout Hollywood et le tout politique très chic Washington défilent à Times Square pour aller...
Là, ils viennent juste, là, il y a quelques jours, d'être condamnés à 800 euros d'amende chacun. Je voudrais qu'on s'arrête un petit instant sur ce ce jugement, parce que autant on peut comprendre que dans le cadre...
qu'on le traite de façon ludique, ce qui serait une des caractéristiques du porno américain. Et d'ailleurs, rappelez-vous quand même que Gorge Profonde, c'est suite à ce film-là, hein, que le fameux indicateur de Woodward et Bernstein dans l'affaire du Watergate prendra son surnom. Il s'appellera Gorge Profonde en référence à ça. Autrement dit, ça établit un lien très intéressant entre on peut tout montrer maintenant à l'écran, hein, donc on peut tout dire aussi, hein, d'une certaine façon, en politique. Et là, on dirait que les années 70, c'est le monde de la libéralisation absolue, mais il ne faut jamais oublier que le code ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il est latent, il est souterrain, on croit qu'il disparaît, mais il peut toujours ressurgir, ce qui sera notamment le cas dans les années 80, où il y aura une sorte de piqûre de rappel puritaine après l'élection de Reagan, extrêmement forte.
Oui, enfin, le code ne meurt jamais, parce qu'il y a des questions qui sont perpétuelles, et notamment les questions que pose la violence des films. Une fois qu'on a cru la question de la censure dépassée, elle revient.
Mais écoutez, moi je ne suis pas très vieux, mais j'ai l'impression que d'avoir entendu ce sujet, pour moi c'est la tarte à la crème, l'éternel combat entre d'un côté des gens qui considèrent qu'un film est trop violent, est éventuellement obscène, et puis ceux qui considèrent qu'au contraire, voilà, il y a autant de films que de réceptions. Tout le problème de la question de
progrès en termes de recherche ADN sont extrêmement importants.
C'est ça, on fait des choses extraordinaires maintenant avec l'ADN, ouais, aussi au service des individus malgré tout. C'est vraiment un double
jugement des contenus. Et de l'autre, une sorte, l'hypothèse de sa réception. Autrement dit, souvenez-vous, à l'époque de Scream...
Il vient de faire une analyse sur 54 personnes, très très poussées, et il s'est rendu compte qu'à partir d'une seule cellule, on pouvait évidemment savoir quelles étaient la couleur des cheveux.
Et multiplier comme ça les exemples, comme si le cinéma, et ça c'est une des vieilles rengaines de la censure...
L'ADN.
À partir de l'ADN, on peut même savoir si quelqu'un a une fossette ou pas de fossette, s'il a des sourcils qui se croisent ou pas au niveau du milieu du visage, donc on peut savoir beaucoup beaucoup de choses.
Donne-leur des poissons, on ne leur apprend pas à pêcher.
Les censeurs quand même avaient raison de dire que plus que le contenu, le plus important, c'était, vous l'avez démontré...
Le biologiste moléculaire, à partir d'une cellule, on peut refaire un individu entier sur le papier. Donc, on commence à le faire d'ailleurs un peu.
Mais là, au point de faire un portrait robot...
Mais enfin, ça contient toute l'information de l'ADN. Tout ce qui vous concerne, tout votre être, c'est contenu dans votre ADN.
Oui, mais après, bon, on est aussi modelé par d'autres choses extérieures. Il n'y a pas que l'ADN, mais...
À la technique, genre,
il y a quelques rites qui s'inscrivent aussi et qui ne sont pas les...
C'est l'ADN, c'est pas l'environnement.
C'est des soucis.
Cela dit, il y a une loi, parce que le parquet, la chancellerie était fin d'identification, puisque là, ça rejoint la loi de la bioéthique. Les critères morphologiques sont exclus, ou uniquement pour des fins de recherche médicale ou scientifique. Donc, en principe, la loi...
Vous savez comment
ça s'appelait ? Cet anglais s'appelait Kirk Bloodworth, qui signifie en français le prix du sang. Donc, déjà, je trouve ça extraordinaire d'avoir un nom qui dise autant de choses. Et évidemment, c'était un qui avait soi-disant violé une petite fille de 9 ans. Il est resté quand même 9 ans en taule. Effectivement, d'une certaine manière, par la justice américaine, qui est quand même, on le sait, un petit peu socialement. Tenez l'affaire de Tarnac, Julien Coupa, qui, lorsqu'il avait été arrêté, il avait pris soin, lorsqu'il allait aux toilettes, de mettre du papier pour éviter toute trace. Et les policiers s'en étaient servis pour dire c'est bien qu'il est coupable parce qu'il ne veut pas laisser son ADN. Moi, je pense simplement que c'est quelqu'un qui refait.
Donc, ce dossier, également à découvrir. Dans l'Express, ce week-end de Vincent Olivier. Merci beaucoup à tous les quatre pour d'autres sujets.
C'est arrivé, l'aubette est une épave de nuit gâchée sous les rires des feux de détresse qui ne s'éteignent jamais vraiment. Ce soir, tu m'as vu autrement à cause d'un moment. Éviter ce geste absent, nous nous sommes tout perdus et je t'ai perdu sur le champ à cause d'un moment. Oups, un geste retenu, il aurait mieux valu froisser plutôt que ce geste évité, ce geste absent. Une blessure sur un visage, un rire sans joie, passé l'ivresse, au brûle des feux clips, un geste retenu. Il aurait mieux valu mouvement, même un regard froissé, plutôt que ce geste évité, ce geste absent, ce geste absent. Ce geste absent.
extrait de son dernier album, Dominique A avec ce créationnisme. Mardi, dossier consacré au sel. Mercredi, c'était autour de la banquise et du réchauffement climatique. Et puis hier, émission consacrée